se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. Coup d'envoi des GG, 9h02. C'est normal, c'est maintenant, parce que ça va de 9h à midi. Nous sommes ensemble, donc, pour 3h, 180 minutes. On vous attend au 32-16 pour venir discuter, débattre. Je passe un petit coucou à mon camarade Olivier Truchot, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui, mais qui sera là lundi, bien sûr, dans les GG aujourd'hui. Marianne Soubré, avocate, bonjour.
Bonjour à tous.
Mehdi Guézard, qui est avec nous, chef d'entreprise. Bonjour Mehdi.
Bonjour à tous.
Et puis, nous sommes avec Bruno Poncet, cheminot syndicaliste. Bonjour Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Olivier n'est pas là, mais Louis Gerbier est là, hein. Ton camarade Gerbier de Châteauroux. Il est là et bien là.
Je peux dire un off, je crois qu'il lui a rapporté des trucs, je sais même pas ce que c'est en fait.
C'est des croquettes de Charot, parce que la semaine dernière, je suis passé à Charot, remercier le maire qui nous avait envoyé.
Et puis, à côté de Vierzon. C'est plutôt du côté de Vierzon ou plutôt du côté de Châteauroux?
Bah, c'est entre les deux, vu que c'est à côté d'Issoudun, qui est à mi-chemin entre Vierzon et Châteauroux.
Mais qu'est-ce que c'est des croquettes?
C'est des sablés, c'est des biscuits un peu secs, mais avec de l'amande dedans.
Et, c'est très bon.
Et en plus, le fabricant des croquets, on va envoyer un colis à la mairie de Charot pour moi. Tu vois. Donc, très gentil, tu vois. Alors, je les remercie. Et donc, je les ai ramenés à Louis parce que après, il a offert plus riche.
Hein, c'est lui qui t'a offert ton t-shirt avec Ryan dessus.
Non, c'est les Pixies, le t-shirt des Pixies. Ah, ouais.
Voilà.
Ouais,
c'est
ça. Les Pixies pour notre fan de rock, Bruno Poncet.
Très, très bon.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des conseils musicaux pour Bruno, ou c'est un vrai encyclopédie musicale vivante.
Ouais, là aussi, plus toi t'étais votre John Fogerty cette semaine, c'est un truc de fou quand même. Hein.
Ça, je me suis régalé à Fogerty. Alors en revanche, Thibaut, notre réalisateur, est allé voir Harry Styles hier au Stade de France. C'est autre chose.
Ça devait être le plus vieux. C'est le seul adulte dedans.
Vous savez, j'ai vu des photos, je savais même pas qui c'était en fait.
Ah oui, alors là, il y a quand même un peu de boulot. Il est temps que tu t'en ailles à Montréal, toi aussi, parce que ça.
Ah, mais par contre, c'est un vrai problème.
Moi, je sais qui est Céline Dion, au moins, tu vois.
Ah, bah oui, c'est sûr, là-bas, oui. C'est
Gilles Leclerc.
Non, Fabienne Thibault. Félix Leclerc, Fabienne Thibault.
C'était Gilles Leclerc. Je sais pas, il y avait un Gilles aussi là-bas. Gilles Vigneault.
Gilles Vigneault.
Oh là là, là,
tu vois. Petit panier sous mon bras. Tiens. Du coup, on va retrouver du Gilles Vigneault et du Félix Leclerc pour faire plaisir à notre futur canadien, notre futur montréalaise, puisque Marianne nous a annoncé en direct, vous l'avez entendu, qu'elle nous quitterait bientôt les GG pour s'installer au Canada.
Moi, je fais comme Charles Aznavour, je fais ma tournée d'adieu qui va durer jusqu'en décembre. Alors, restez avec moi pour ma tournée d'adieu.
Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Rendez-vous tout à l'heure à 11h. Nous serons avec Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. On a beaucoup parlé des saisonniers là ces jours-ci. Elle a annoncé son plan pour venir en aide au secteur de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration. Trouver des bras, Olivia Grégoire, elle viendra nous le détailler tout à l'heure. On parlera des hausses des prix avec elle, facture d'électricité, d'énergie, où en est-on? Est-ce qu'on va avoir un été compliqué au niveau des prix? Puis tourisme aussi, ce sera au cœur de nos discussions. Vous voulez discuter avec Madame la Ministre grâce aux grandes gueules, 32-16, tiens sur la question des saisonniers. Et rendez-vous tout à l'heure à 11h. Allez, premier sujet de discussion, le suicide de l'INSEE. Harcèlement scolaire, est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'école pour protéger nos enfants dans ces histoires de harcèlement? Venez en parler avec nous donc au 32-16 et on écoute la mère de l'INSEE.
RMC, les grandes gueules.
J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit. L'INSEE... À un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur. Justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. » Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent. Sans vous, je ne serais pas là. Elle me manque.
Voilà, et puis ensuite, il y a eu la lettre de l'INSEE qui s'est suicidée, lue par l'avocat. C'est terrible. Hein, ça nous glace quand on entend ça. Ça nous émeut parce que nous sommes tous aussi... parents touchés par cette histoire qui pourrait arriver à nos enfants ou aux enfants des enfants d'amis. Et on peut rester insensible à ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, parce qu'il n'y a pas une journée sans que on entende parler de ces histoires de harcèlement. Et dans sa lettre, avant qu'elle ne se suicide, l'INSEE a écrit, je pense aussi à Mélisse, je m'en vais parce que je n'en peux plus. Et je pense aussi à Mélisse, qui est sa copine, qui se retrouve elle aussi harcelée. Alors, vous avez entendu ce qu'a dit la mère. On a été lâché par tout le monde. L'avocat a décidé de porter plainte. Il porte plainte contre le directeur du collège, Académie de Lille, Facebook France, Instagram France. Et puis, les policiers qui avaient eu des notifications noires sur blanc, hein, des témoignages de ce qui se passait aussi dans ce collège. Au mois de février, la harceleuse en chef avait été exclue. Entre février et mai, que s'est-il passé? Ça a continué, et ça a continué à un point tel que l'INSEE s'est suicidé. On a été lâché par tout le monde, explique la mère de l'INSEE. C'est une faillite collective, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale hier, Papa Ndiaye, que nous recevions, Olivier et moi, sur BFM TV. Il a dit qu'il faut en faire davantage au niveau des transmissions de dossiers entre la police et les directeurs d'établissement. Il faut une meilleure formation des directeurs d'établissement, davantage de psychologues, des experts des réseaux sociaux, d'écoutants. Du côté de la direction de l'établissement, on avait fait une cellule de crise, on avait réuni tout le monde, on avait essayé de les confronter et de leur dire d'arrêter. Ça n'a pas suffi, l'INSEE s'est suicidé et ça continue. Alors, est-ce que on peut encore faire confiance à l'école pour protéger nos enfants dans ces histoires de harcèlement? 32-16 pour en parler, Marianne.
Bah déjà, en tant que mère et en tant que, les mots de cette maman sont terrifiants. Enfin, je pense que mes premières pensées vont vers elle, parce que c'est abominable ce qui lui est arrivé. Et ce qui est encore plus abominable, c'est que malheureusement, l'INSEE n'est pas la première, et que cette année, on a entendu parler, alors je suis désolée parce que j'ai oublié son prénom, le jeune homme de 13 ans qui s'est suicidé, qui avait parlé de son homosexualité, qui a fini par se suicider à cause du harcèlement. Et combien on va en avoir comme ça avant que les gens réagissent? Il faut savoir que ça dépend quand même beaucoup des académies, qu'il y a des académies où en fait les choses sont très très vite et très bien prises en main, parce qu'il y a des, normalement dans toutes les académies, tu as une cellule harcèlement qui peut être déclenchée, et qui est déclenchée soit à la demande, normalement à la demande de l'établissement, et ils vont donc apporter du soutien dans les établissements pour leur expliquer exactement les démarches qu'ils doivent faire, mais qui peuvent aussi, et qui sont parfois très réactifs, quand les parents les appellent. Donc il y a une vraie faillite aussi de cette académie là concernant l'INSEE. Donc effectivement, quand le ministre dit que collectivement il y a un problème et qu'il faut aller dans la formation, il a raison. Maintenant,
c'est à l'extérieur que ça continue aussi.
Ce qu'il faudra qu'on voit, c'est exactement, parce que quand la maman dit, le chef d'établissement lui a dit j'en ai assez de tes bêtises, c'est extrêmement grave de réagir comme ça quand on voit les conséquences que ça a eu.
Bien sûr, mais le chef d'établissement, peut-être que lui n'est pas assez formé ou assez sensibilisé, et puis il se dit au collège.
Voilà, c'est ça.
C'est bon, c'est les histoires, comme il y en a tout le temps au collège, comme il y en a depuis la nuit des temps, histoire entre filles, peut-être de jalousie, de rivalité. Allez discuter, vous vous en sortirez tout seul.
Mais sauf qu'on oublie qu'aujourd'hui, le harcèlement, et moi j'ai vu aussi des chefs d'établissement qui disaient, alors que, attention, ça les concerne, qui disaient qu'à partir du moment où ça ne se passait pas dans l'établissement, ça ne les concernait pas. En réalité, la loi est très claire de ce côté-là. Un harcèlement qui se poursuit en dehors de l'établissement, c'est-à-dire par des messages sur les réseaux, etc., concerne également le chef d'établissement. Mais il y en a beaucoup qui se lavent les mains en disant « Ah oui, mais c'est pas dans l'enceinte de mon établissement, donc je suis tranquille. » Ça n'est pas vrai.
Légalement, ça concerne encore l'établissement.
Ça les concerne également. Donc ça, il faut quand même
ça
pas l'oublier.
Ça concerne aussi et surtout les parents aussi, ces histoires.
Il faut pas l'oublier. Mais le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'enfant ou le jeune, l'adolescent sort de son établissement scolaire, ça se poursuit encore via WhatsApp, via les réseaux sociaux, etc., etc., et ça n'arrête jamais. Donc à un moment, il faut aussi sensibiliser également les parents et aussi la police, parce que dans des situations, parfois ça a été désamorcé tout simplement. J'ai un exemple en tête où c'est les gendarmes qui ont convoqué en fait les harceleurs. Et ça a été vite réglé.
Mais la harceleuse, faut le rappeler, elle a été convoquée. Là, il y a 4 mises en examen aussi. Parmi la harceleuse, elle avait été convoquée, elle a été exclue. Et là, il y a quatre mises en examen, quatre mineurs qui sont mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide.
La mère,
dans le cadre d'une information judiciaire aussi.
Il faudrait aussi voir que je crois.
C'est la mère qui a été mise en examen.
La mère, voilà,
menace de mort.
Que la mère, voilà, de la harceleuse principale a également menacé l'INSEE. Donc là, on est dans un délire total.
Mehdi,
moi,
tu as un gamin en plus.
J'ai un gamin
qui doit être vigilant.
Mais moi, j'ai une sorte de barrière, c'est que pour moi, à partir d'un certain âge, jusqu'à un certain âge, les téléphones portables et les réseaux sociaux sont totalement proscrits et interdits. Je l'ai dit ici, sur ce plateau, plusieurs fois, où les réseaux sociaux ont, pour moi, entre 70 et 80% de part de responsabilité dans tout ce qui est en train de se passer actuellement dans les écoles, les collèges et les lycées à travers le territoire national. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes à l'école, à la rigueur, même si tout le monde sait que les établissements scolaires sont en manque de personnel, quand vous êtes à l'école, vous avez quand même une sorte de protection. Quand vous sortez de l'école, c'est là où c'est le plus dangereux, d'accord? Quand la gamine à 22h ou 23h ou minuit se fait harceler sur les réseaux sociaux ou de la parodie, où il met des images d'elle parodiées, tout ça, c'est ça qui est le plus dangereux. C'est ça qui lui a fait, je pense, le plus mal, d'après ce que j'ai compris, selon les différents.
Des moqueries, des détournements de son image.
Des détournements permanents de son image sur les réseaux sociaux où tout le collège voyait justement ces images et c'est ça qui l'a.
Pas que son collège.
Non, mais ça veut dire les personnes les plus proches d'elle, en fait, voyaient tout ça. Et je pense que quand l'avocat porte plainte contre Instagram ou contre Facebook France, honnêtement, à sa place, je pense qu'on aurait tous séparé. C'est juste symbolique. C'est que ces groupes-là prennent aussi leur responsabilité d'un moment mettre le haut là et d'avoir une sorte de cellule de contrôle où quand tu vois des messages comme ça, ça bloque un compte, ça suspend un compte. Mais là, on est plus.
Ils savent le faire. Si demain, toi, tu mets une photo
sur place, ils le font.
Ton compte.
Voilà. Mais quand c'est des trucs comme ça, non, ils le font pas.
Il y a du harcèlement, il y a des menaces de mort.
Pour moi, tout ça, enfin, une grande partie, je le dis bien, une grande partie des problèmes récurrents, justement, de ce harcèlement qui pousse, justement, à certains des enfants les plus, on va dire, sensibles à se suicider, pour moi, sont dus véritablement à l'harcèlement qui est fait sur les réseaux sociaux. Et c'est le fléau actuellement, c'est ça. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que moi, je vois, c'est un truc qui me choque, c'est quand je vois des gamins qui ont 10 ans, 12 ans, tu leur parles, tu dis j'ai Snap, j'ai Insta, j'ai TikTok, j'ai tout.
Bah là, ils ont 13 ans. Hein.
13 ans, ils ont
ouais, parce que ça fait partie de leur monde
mais
aujourd'hui.
Mais c'est pas normal.
Oui, bah oui,
mais Alain, ce n'est pas normal. Oui. C'est pas logique, je te le dis. Pour toi, c'est maintenant, tu imagines qu'en 2023, c'est devenu logique qu'un gamin de 10 ans ou 12 ans, qu'un gamin ait un téléphone portable, tu sais,
après, c'est de la responsabilité des parents.
Tu vois,
tu fais part de ta fermeté.
Mais moi, c'est pas de la fermeté. Moi, c'est juste de la bonne conscience. Je sais pas. Un gamin, tu sais pas ce qui se passe derrière.
Ton fils grandira parce qu'il est petit là pour le moment. Mais il y a la responsabilité effectivement des parents d'essayer de savoir ce qui se passe à l'école au moment où ils entendent parler de ces histoires, d'en parler avec leurs enfants, de dire stop, attention, ça peut conduire au pire. Et visiblement là, rien n'a été fait du côté des parents, Bruno Poncet.
Moi, je trouve que, au-delà de cette douleur qui est indicible, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement et tout l'État et nous aussi devraient faire, comme des violences faites aux femmes, du harcèlement scolaire, une des priorités, parce que c'est devenu un mal de notre époque, ça l'a toujours été. Mais quand on était gamin, nous, ça se finissait très rapidement parce qu'il n'y avait pas ces réseaux qui partaient en cascade partout. Et souvent, les parents allaient voir les autres parents. Là, ça ne s'arrête pas. Et puis, une fois que les images sont là, après, elles peuvent partir dans n'importe où. Mais c'est surtout que, aujourd'hui, moi, ce qui m'irrisse vraiment, c'est d'entendre le directeur de l'école dire vas-y, débrouillez-vous entre vous, c'est votre problème. Ben non, parce qu'en fin de compte, lui, il devrait comprendre qu'en 2023, malheureusement, les réseaux, les téléphones, les outils que les gamins ont, et puis aussi un petit peu l'effet de masse, l'effet de troupe, comme on le voit dans d'autres gamins, l'effet de meute, les gamins qui se battent entre eux.
Parce qu'elle était vraiment prise en chasse, là, en fait. La l'INSEE, on ne l'a lâché jamais, quoi, en fait.
Et c'est pour ça, moi, je trouve que le directeur, il a été un peu léger. Mais alors après, aujourd'hui, on sait très bien que les directeurs, ils ont tellement de choses à gérer, ils se retrouvent tellement.
À notre époque, à toi et à moi, Bruno, je pense, hein, je parle sous ton contrôle, quand on avait un truc au CPE, je sais pas si tu te rappelles, moi, c'était le CPE, je tremblais. Tu sais que ma directrice, Madame Bérangère, si elle nous écoute, je l'ai pas vu pendant 5 ans, je crois, ou 6 ans. Enfin, on la voyait jamais parce que c'était vraiment c'est vraiment si t'avais brûlé le collège, quoi, à la rigueur. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
non, mais c'est vrai, hein, pour arriver à la directrice.
C'était la cour d'assises quand
et je peux te dire que quand tu te faisais convoquer par le CPE, tu la ramenais pas large, quoi. Tu sais, déjà, t'étais pas bien. Maintenant, ils se font convoquer chez le CPE, ils y vont avec un chewing-gum.
Ni les policiers.
Mais ils y vont avec un chewing-gum, les gamins de nos jours au CPE. Ouais, j'appelle ta mère, j'appelle ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère.
Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire.
L'autorité est perdue. Et le mal, il est là, quoi.
L'équipe pédagogique, avant, elle connaissait quasiment tous les élèves. C'est-à-dire que moi, je me rappelle.
Par leur prénom, non.
Moi, quand j'étais au collège, tout le monde te connaissait parce que voilà, ils savaient.
Exactement.
Tu es 4 ans dans le collège. Donc, forcément, même le directeur, même s'il changeait, tout le monde te connaissait.
C'est exactement ça.
Nous appelle au 32-16 Paris 15e. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Vous vouliez réagir à cette tragédie du harcèlement et de la mort de l'INSEE. Ça vous touche pourquoi, Romain?
Ah, moi, déjà, ça m'a bouleversé hier quand j'ai entendu la lettre de cette petite. J'étais totalement bouleversé. Et ensuite, je suis révolté, et notamment par le désintérêt qui se ressent profondément. Hier, je vous ai écouté avec le ministre de l'Éducation nationale. Oui. Mais j'ai senti une telle mollesse dans sa réaction que ça m'a complètement abasourdi. Moi, je comprends pas. J'ai l'impression que dans ce pays, quand il se passe quelque chose d'extrêmement grave, on est obligé de passer soit aux Grandes Gueules le matin ou chez Hanouna le soir pour que ça soit traité, le problème. Ça n'est pas possible. Là, on n'est pas sur une maison squattée. On est sur le suicide d'une gamine de 13 ans qui avait averti tout le monde. Donc c'est totalement intolérable. Et moi, cette lettre... Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, le ministre, il ait dit hier, mesdames, messieurs, dans les écoles, vous faites lire la lettre. On la lit à tout le monde, à tous les gamins. Et la prochaine affaire de harcèlement, ça se passera pas comme ça. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez une gamine qui s'est suicidée, des parents qui ont perdu leur fille de 13 ans. Ça n'est pas admissible. Et j'en ai marre également de tous ces ministres qui sont systématiquement dans la communication. Il n'y a aucune action de leur part. Donc ça, on les entend hein, sur les plateaux télé pour critiquer. Les chaînes infos en continu, CNews, C8, nanani. Par contre, pour gérer les problèmes au quotidien, pour réagir immédiatement, il n'y a personne. Et donc, on ne peut pas vivre en société comme ça. Ça n'est pas
possible. Mais c'est terrible ce que vous dites, Romain, parce qu'effectivement, il a fallu la conférence de presse des parents, de l'avocat, les larmes de la mère, la lettre écrite par l'INSEE, lue par l'avocat, pour que derrière, le ministre de l'Éducation nationale, finalement, prenne contact avec la famille, essaie de la joindre, et nous dise hier soir sur le plateau de BFM TV, je vais m'en occuper personnellement, nous sommes tous bouleversés face à une tragédie.
Parce que la mère a dit que avant...
Personne ne l'avait appelé.
Pendant et après, ni appel, ni courrier. C'est terrible. Juste, je voulais dire, en fait, il s'appelait Lucas. C'était en janvier, le jeune garçon qui s'est suicidé. Donc, quand on va en avoir tous les mois, qu'est-ce qui va se passer, en fait?
Ouais.
À partir de combien d'enfants morts, on va faire des choses. Et il y a un tel d'impunité. En fait, on est rentré dans un état totalement d'impunité totale. Moi, j'ai ma gamine à côté de chez vous, Parc André Citroën, l'année dernière.
Oui, c'est juste à côté.
Ils ont fait un anniversaire d'école, d'accord? À 16h30, 17h de l'après-midi. Ils se sont fait attaquer par une bande avec des bâtons. Ils sont venus pour piquer les téléphones. Même des parents se sont fait taper. Les policiers sont venus, les policiers ont fait le boulot. On a été au commissariat, ainsi de suite. Ma fille est traumatisée parce qu'elle s'est pris un coup de bâton dans la jambe. Elle savait pas que dans la vie, on pouvait se prendre des coups de bâton. Elle l'a compris. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune suite. Il n'y a rien du tout. Donc ma fille a compris. Moi, je le savais, mais ma fille a compris. Elle s'est dit, mais on peut se faire taper par quelqu'un, par un coup de bâton. Il ne se passera jamais rien. Pas une excuse publique, aucune rencontre, aucune amende, rien du tout. Comment voulez-vous qu'on vive sereinement en société? Et en plus, nous, Français, on se permet de donner des leçons de morale à la terre entière. Non, mais déjà qu'on se regarde...
Là, vous voyez la faille...
De problème.
Mais oui, mais quand vous entendez Papa Ndiaye parler de phare, là, effectivement, le système d'alerte contre le harcèlement qui a été mis en place dans les collèges, dans les académies, des numéros qui sont mis en place, là, le 30-18, le 30-20, les choses bougent. Mais c'est vrai que c'est compliqué face à un phénomène qu'on a du mal à maîtriser parce que derrière, il y a les réseaux sociaux. Et le directeur dit pourtant, moi, j'avais mis en place la cellule. J'ai fait rencontrer les jeunes entre eux. Vous voyez, Romain,
il y a des tentatives quand même. Les gamines, ils les ont chopés, ils savent qui c'est. On va voir les parents. On fait payer 10 000 euros d'amende, 20 000 euros d'amende. Et moi, j'ai vu une vidéo ce matin sur votre chaîne d'une petite Maëlys qui se faisait taper par une... Violemment.
Tirer les cheveux, frapper au sol.
Mais elle a bien des parents, cette fille. Non, on peut pas aller voir les parents, leur faire payer des amendes, leur faire casquer un peu les frais de santé, les frais d'hôpitaux, la dégager, la sortir du système. Mais c'est pas possible. Franchement, ne nous étonnons pas. En franchement, que dans les prochaines élections, ça, vraiment, il y a une colère qui s'exprime,
ouais, qui s'exprime
par ce vote. Parce que ça ne marche pas. On nous dit qu'on a des gens très très bons au gouvernement depuis des dizaines d'années. Vous voyez le résultat aujourd'hui ? Donc on va essayer peut-être avec des gens mauvais. Ça sera pas pire, je pense. Donc
voilà. Le coup de gueule de Romain, Paris 15e. Romain, la discussion continue. Merci d'avoir été avec nous, Romain. Harcèlement, peut-on encore faire confiance à l'école ? On a l'impression d'avoir une faillite générale des pouvoirs publics. C'est ce que disait Romain. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On reparle ensemble du suicide de l'INSEE, cette tragédie. On a été lâché par tout le monde. Ça a été le cri de douleur et le cri de colère en même temps de sa mère. Hier, la conférence de presse qu'elle a tenue avec son avocat, des plaintes pour non-assistance à personne en péril avec le directeur du collège, l'Académie de Lille, Facebook France, Instagram France et les policiers qui sont visés par la plainte. 4 jeunes qui sont mis en examen, 4 mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, une personne majeure aussi mise en examen pour menace de mort, tous ont été placés sous contrôle judiciaire.
Je voulais revenir sur ce que disait notre auditeur sur le fait de faire payer les parents des harceleurs. C'est déjà prévu, hein, de toute façon, en termes de responsabilité civile, les parents sont responsables et un jour, quand il y aura des procès, ils devront payer. Mais on touche du doigt en fait la faillite du système des juges des enfants. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait, la réponse sur des adolescents, c'est évidemment le juge des enfants, c'est lui qui doit les juger, c'est lui qui doit agir vite, c'est lui qui doit prendre les mesures, etc. Sauf qu'on n'en a pas assez. Il n'y a pas assez d'éducateurs, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de greffiers. Et donc, on revient, si tu veux. Mais oui, mais quand on parle de problème de réactivité, oui, la réactivité, elle est liée aussi à ça.
Là, tu me parles de la chaîne judiciaire, de la chaîne pénale. Seulement,
avant, il
y a la responsabilité individuelle. Comme le disait Mehdi, des parents aussi, au moment où le directeur les convoque, comment on dit, voilà, il y a un problème, c'est des enfants, c'est des gamins, 13 ans, elle s'est suicidée, elle a 13 ans, c'est l'âge où on est fragile, c'est l'âge où on se cherche, c'est l'âge où tu es touché, où tu es ultra sensible, t'es à fleur de peau, tu vois.
Mais
là, au moment où ça, le directeur les convoque, et à la limite, est-ce que tu peux les convoquer avec un officier de police judiciaire en disant voilà ce qui se passe, c'est grave.
Mais non, mais c'est la police les convoque, bien sûr.
C'est aux parents à se prendre en main, à réaliser ce qui se passe.
Quand tu es mineur.
Et à pas participer en disant mais non, mon fils a fait ça, écoutez, c'est pas grave, ou ma fille a fait ça, c'est pas grave, c'est des trucs de gosse et
l'enfant roi,
quoi, tu vois.
C'est le problème de l'enfant roi. C'est le problème où quand t'as ton gosse qui est en face de toi, tu penses comme quoi il est parfait, qu'il a jamais rien fait, que c'est jamais de sa faute. Et ça, il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui pensent ça de leurs enfants.
Et tant que ça va plus loin, mais
ils ne les remettent pas en question, ils ne remettent jamais en question leur gosse.
Plus loin, puisqu'il semblerait, alors sous réserve, c'est toujours du conditionnel,
que la mère aussi
ait proféré des menaces et qu'elle ait fait des vidéos sur TikTok pour elle-même harceler l'INSEE et la menacer de mort.
J'espère vraiment qu'il
se prend. La maturité de cette mère, quoi, tu vois, qui se prend elle aussi pour une ado, sûrement.
J'espère juste que la sanction sera aussi grave que ce qui s'est passé.
J'ai lu une histoire où.
Attends, pardon.
Parce que ça, pour moi, c'est.
Tu nous la raconteras dans un instant, Bruno. Excuse-moi, mais c'est parce que Blanche a justement une histoire à nous raconter au 32-16. Elle est dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Blanche.
Bonjour.
Parce que vous aussi, le harcèlement, c'est quelque chose qui vous touche.
Oui, tout à fait.
Expliquez-nous.
J'ai une petite fille qui aujourd'hui a 11 ans. Elle est en CM2 et en fait, dès le CE2, il y a 2-3 ans, en fait, justement, peu de temps après le Covid, en fait, on a vu notre petite fille qui, à la base, est plutôt pétillante, voilà, très, très ouverte, très épanouie, s'éteindre doucement. Au début, on n'a pas trop compris. Effectivement, on a mis ça un peu sur un peu les réactions classiques de dire c'est des petites chamailleries d'enfants, des petites prises de tête de cours d'école, voilà, ça va passer. Et en fait, c'est monté crescendo avec notamment une enfant qui a vraiment plutôt monté le truc en épingle et qui a pris en fait un petit peu tout le reste de la classe contre ma fille. Et ça a été très très loin pendant presque 2 ans en fait, avec des menaces même de violence dans la cour d'école, à vouloir la frapper, etc. Et effectivement, on avait alerté en fait notamment la directrice de l'établissement à l'époque.
Et comment a-t-elle réagi alors?
Alors sur le moment, elle m'a reçue. C'était au début, j'étais plutôt contente. Voilà, j'ai eu l'impression d'être écoutée, mais s'en est restée là. Elle a dit qu'elle serait vigilante. Et puis un jour, elle m'a reconvoquée quelques semaines plus tard en me disant effectivement, Zoé va pas bien. il faudrait aller consulter un psychologue. En fait, on m'a juste mis face à ça. Débrouillez-vous. Voilà. J'ai dit, peut-être la psychologue de l'établissement. Ah non, elle sait pas. Il faut vraiment, voilà. Donc, débrouillez-vous. Donc, effectivement, j'ai pris mes responsabilités de maman. J'ai consulté une thérapeute. Voilà, on a mis des choses en place. Mais en fait, du coup, au niveau de l'établissement, rien n'a été réellement mis en place. Ma fille n'a pas forcément été prise en considération. Et justement, j'étais très, je suis très.
Mais est-ce que ça s'est calmé à l'école ensuite? Est-ce que l'agressivité, le harcèlement, tout ça, ça s'est arrêté ou pas?
Non, pas du tout. En fait,
et vous aviez le nom, en fait, de.
Ah oui. En fait, même
vous n'avez pas pu contacter les parents?
Ben, c'était dans notre entourage proche, en fait, c'était même des amis, en fait, on se côtoyait à l'extérieur, voilà. Et ça a fini que justement, en fait, très dans la bienveillance, en fait, j'ai vu mon amie et j'ai commencé à vouloir lui parler, en fait, du comportement de sa fille. Et là, en fait, ça a été le braquage total.
Oui, c'était l'enfant. Mais non, ma fille ne peut pas faire ça, etc.
Exactement.
Voilà, quoi.
Ouais. Ce que vous disiez juste avant de me prendre à l'antenne, en fait, voilà.
C'est ça.
Vraiment le déni. L'enfant roi et
ma fille c'est la meilleure, mon fils c'est le meilleur.
Ouais. Exactement. Et en fait, ça a même été, comme vous le disiez, en fait là aussi la maman est rentrée dans le jeu de sa fille, à proférer en fait, des menaces, du coup à dire que dans quelques années ma fille serait mise en centre de rééducation pour jeunes délinquants. Ouais. Et voilà. Et donc il y a quelques mois de ça, en fait, on a eu une opportunité professionnelle en fait de déménager.
Vous êtes partie.
Et en fait. Comment c'est solutionner le problème, voilà. En fait, du coup, ça a même pesé dans le choix de savoir si on déménagerait ou pas.
Oui, mais c'est terrible. C'est-à-dire, c'est le harcelé ou la victime qui
bien
doit,
sûr.
Qui
c'est l'agressé, qui s'échange.
Et je vais même plus loin, excusez-moi, mais souvent, en fait, tu vas passer du public au privé. Parce que dans le privé, il y aura un encadrement.
C'est exactement ça, Blanche, oui.
Aujourd'hui, ma fille, en fait, on a déménagé et en fait, le choix de choisir l'établissement a fait que du coup, quand on s'est établi dans notre nouvelle région, et bien en fait, aujourd'hui, ma fille est dans le privé et en fait, aujourd'hui, ma fille, elle revit. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, elle est dans un établissement super avec des professionnels vraiment investis et on a retrouvé notre petite fille. Elle est heureuse, elle est épanouie.
Blanche, tant mieux. Je vous remercie de nous avoir raconté cette histoire, ce nouveau témoignage.
Et permettez,
puisque ça finit bien et pour se remonter le moral les uns les autres, vous savez que la fête des mères arrive, donc je vais vous offrir un bouquet des artisans fleuristes solidaires qui tout au long de l'année. Voilà, soutiennent les associations caritatives.
On l'offre pas à Blanche, on l'offre à Zoé.
Voilà, vous le partagerez.
Voilà, c'est les. Je suis extrêmement fan de vous. En fait, je suis infirmière médicale et je vous écoute tous les matins dans la voiture pendant ma tournée.
Merci, merci de votre fidélité. Donc, le bouquet solidaire, ces artisans fleuristes qui reversent 2 € à l'association Les Blouses Roses. Qui viennent en aide aux personnes malades.
Bravo,
le
vous
qui arrive dans les tout prochains jours. Puis il y a une jeune fille dont il faut parler aussi. Hein. C'est Mélisse.
Sa copine.
La copine de l'INSEE. Parce que sa mère est en train d'alerter. Parce que pour ceux qui ont. Tu sais, quand l'INSEE s'est suicidé, il y a un compte Instagram qui s'est ouvert. Pardon, je vais lire précisément ce qui est écrit sur le compte Instagram. Il était écrit la pute est morte. Elle s'en est allée, nous irons pisser sur sa tombe. Ça, c'était à propos de l'INSEE. Et pour ceux qui se sont dit, maintenant, on enchaîne. Allez, maintenant, Mélisse. Parce qu'ils prennent ça, si tu veux, en plus, comme un jeu. Comme un jeu terrible, un jeu de la mort. Comme si au bout, si tu veux, tu dis, on a gagné, quoi, tu vois. C'est terrible. Et la maman de Mélisse, depuis plusieurs jours maintenant, elle alerte sur les dangers que risque sur le danger que risque sa fille aussi qui se retrouve au cœur du cyclone du harcèlement, tu vois Bruno, c'est dingue.
Moi j'avais entendu l'histoire d'un papa qui s'était rendu compte que son fils était pas bien, il mangeait pas, il était toujours hyper taciturne et tout, et le papa il est gendarme, donc le papa un jour il parle avec son fils et puis son fils explose, il dit voilà je suis racketté, je suis harcelé à l'école et tout, il avait pareil, c'était un gamin du collège. Le papa étant gendarme, il a plus de moyens, il a convoqué les parents du petit adverse et le petit arrive à la gendarmerie, il savait pas trop ce qui se passait, il dit tu sais qui je suis, il dit là c'est pas le papa qui te reçoit, c'est le gendarme. Et il lui pose des questions au petit avec le père et le petit raconte ce qu'il fait à l'autre, mais il trouve ça normal, tu vois. Et le père voyant que c'était la gendarmerie, c'est déjà le cadre un peu différent. Voyant que c'était la gendarmerie, le père a pris conscience du truc quand il s'est retrouvé à la gendarmerie, il dit vu ce que t'as fait là, tu vois, c'est passible de ça, 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 tu peux aller devant un juge, et puis ton père va payer ça, ça, ça. Et donc, en fin de compte, l'histoire s'est arrangée comme ça, et ça n'a pas été plus loin, mais parce qu'il y a eu la peur du gendarme. Mais s'il faut, à un moment donné, que la gendarme rentre dans toutes les écoles, c'est pas possible. Enfin, moi, personnellement, je pense que l'éducation nationale
pourquoi
doit avoir les moyens de régler
pourquoi
le truc.
Pas mais quand tu arrives à
d'accord,
il y a une étape maximum après la mort. Il y a pas d'étape maximum.
Il y a pas d'étape maximum après la mort,
Bruno. Je suis désolé, mais tu vois comme quoi les gens de l'éducation nationale sont dépassés. Il y a pas assez de profs pour faire des cours. Est-ce que tu crois qu'il va avoir assez de surveillants pour surveiller les gosses? C'est pas possible.
Il y a
donc
pas de
psychologue. À un moment, ah oui, je te le dis, en cas extrême, en cas de.
Toi, tu fais venir les gendarmes.
Gendarmes ou policiers. Oui, mais alors on fait rien. Donc on les laisse.
C'est pas ce qu'on dit.
Donc il n'y a pas assez de surveillants. Alors si je.
Il faut mettre du monde dans les services publics,
on remet les choses dans leur contexte. Il n'y a pas assez de surveillants. Il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de gendarmes.
Il n'y a pas assez de juges.
Attendez, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de juges. Donc on fait quoi?
Non, on
laisse crever les gamins?
Non, on remet du monde dans tout ça.
Donc, justement, le temps qu'on remette des personnes adéquates dans le système scolaire, et ce n'est pas près d'arriver, parce que tu sais très bien ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer la véritable autorité. Moi, je te le dis, en tant que petit contribuable, ça ne me dérange pas de payer mes impôts pour que des gendarmes ou des policiers soient à l'intérieur des écoles et fassent parce que là, il n'y a pas plus grave que la mort.
Signalement chez les policiers, plus l'établissement qui avait à gérer ce conflit. Donc, à un moment, tu peux te dire, écoutez, on va se mettre ensemble, on va travailler, on va faire une réunion de crise avant que le pire n'arrive. Enfin, je veux dire, faut qu'il y ait un avant et un après l'INSEE. Tu parlais du petit Théo homosexuel.
Non, Lucas.
Le petit Lucas homosexuel. Effectivement, qui s'était suicidé.
Il y a un problème générationnel, c'est que même s'ils sont jeunes, pour la plupart, enfin les professeurs, etc., aujourd'hui, même ceux qui ont 25-30 ans, ils sont peut-être pas nés aussi avec un smartphone dans la main comme cette génération-là. Ouais. Et c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est rentré dans la vie de ces gamins.
C'est le rapport à la violence aussi qu'ils ont, ça qui m'inquiète.
Exactement.
Parce que pour eux, tuer ou blesser, c'est normal. Tu sais, quand tu vois qu'ils se battent violemment et qu'ils se filment et qu'ils trouvent ça drôle.
Mais regarde juste les émissions de télé-réalité. Tout le monde voit les séquences sur les réseaux ou à la télé
où les filles s'insultent
entre eux, ils se crèvent le chignon entre eux et s'invectivent et ils font des clans les uns. Ben voilà.
Et derrière,
ils
gagnent de l'argent en plus.
Mais c'est ça. Mais ça donne ça à la fin. Mais ça donne ça parce que je te le dis, la gamine, il doit en avoir une ou deux qui doit être dans le lot de on va dire d'harceleuse.
Oui,
il doit en avoir une ou deux qui doit être conne. Enfin, conne, excusez-moi l'expression, mais qui doit être mauvaise dans le sens où tout le reste, c'est juste, ils veulent être entre guillemets, du bon côté c'est tout.
Est-ce que tu
crois
que pour Instagram, Facebook, il va se passer quelque chose ou pas du point de vue légal pour les hébergeurs?
Normalement, tu sais que le gouvernement avait montré un peu les gros bras plusieurs fois en disant il faudrait que ça s'arrête, les contenus, etc. Ça a jamais marché. On espère, on aimerait bien, parce que normalement, quand il y a du harcèlement, c'est vrai que tu mets une photo de nu, dans les 5 minutes, ton compte, il est suspendu.
Non, mais en plus...
Mais là, quand tu signales des comptes, combien de fois j'ai signalé des comptes pour harcèlement ou autre, et souvent, on te dit, nous avons vérifié, ils n'enfreignent pas les règles. Donc, le gouvernement a déjà essayé, il y en a beaucoup qui ont essayé, je ne sais pas si ça va marcher.
Les réseaux sociaux, c'est dingue, parce que moi, j'ai mis une fois une pochette de Queens of the Stone Age, où c'est une jeune femme dénudée, tu veux ta dessin à l'air. Tout de suite, on m'a dit, voilà, votre compte va être bloqué si vous ne la retirez pas, j'ai retiré. Et moi, pendant le procès des attentats de novembre 2015, j'ai appris que les mecs regardaient des vidéos sur Facebook et tout, des vidéos où on décapite, où on tue. Mais... C'est comme ça qu'ils se sont fédérés entre eux. Et ça, par contre, ces vidéos-là n'ont jamais été retirées et tu sais que t'as des comptes qui génèrent ça. Ouais. Et donc, tu peux, pour un sein sur une pochette de 10, t'es suspendu. Par contre, tu peux faire n'importe quoi avec le reste. C'est incroyable, ces réseaux sociaux.
Merci à Blanche d'avoir elle aussi témoigné. Désolé, Guillaume voulait aussi apporter son témoignage. Pardon, Guillaume, on est tenu par le temps et permettez pour m'excuser que je vous envoie un bouquet de fleurs. Donc, pour vous aussi, avec les artisans fleuristes solidaires. Voilà, on va vous remettre des bouquets de fleurs tout au long de l'émission. On va regarder la consultation, le suicide de l'INSEE, le harcèlement scolaire. Est-ce que on fait encore confiance à l'école pour résoudre ces crises, ces situations? C'est sans appel. Non, à 93%. Il y a une vite. Là, il faut réagir du côté de l'éducation nationale et mettre en place tous les outils pour rassurer les parents. Dans un instant, on s'en fout pas avec notre producteur Louis Gerbier. La chute de Joe Biden. en pleine cérémonie militaire et puis plus aucun Français à Roland-Garros, entre autres, on s'en fout ou pas? À tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story dans les GG. Aujourd'hui, nous sommes avec Mehdi Ghezard, chef d'entreprise, Marianne Soubré, avocate, accompagnée par Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. C'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bah, il est où Gerbier? Il est où le gars de Châteauroux?
Il est là, il est là. J'avais un peu de retard.
Ah, bouquet de fleurs.
Un bouquet de fleurs pour Marianne.
Ah, merci. Bah, c'est un peu sexiste et genré, ça tu pourrais l'offrir à un homme, quoi.
Ah, ça va, Poncet.
Ça y est, le gars de Vierzon, ils sont.
Ils
sont
modernes.
À l'ancienne.
Non, on est modernes, nous.
Modernes. Châteauroux,
c'est bien parce que comme ça, regarde, si je le mets là, on ne voit plus du tout.
Les fleurs de nos amis artisans fleuristes solidaires qui reversent 2 euros à l'association les Blouses Roses. Entre Mehdi et toi.
Voilà, parfait. Mehdi, ça l'enchante.
Ça fait 3 plantes.
Alors, pour tout vous expliquer, notre ami Mehdi, il est sous Médoc parce qu'il a une grosse opération des gencives, c'est ça? Avec des implants. Et donc, il souffre le martyr, mais il tenait à être là avec les GG ce matin.
Exactement.
C'est bien, Dieu te rendra.
Essaye de manger. Parce que
moi, je suis un peu gêné en ce moment. Allez, Louis, on y va. On s'en fout, on s'en fout pas.
Allez, vous l'avez sûrement vu. Joe Biden a fait une chute à première vue sans gravité lors d'une cérémonie militaire à Colorado Springs. Vous allez voir la vidéo normalement pour RMC Story. Alors on s'en fout pas d'un président un peu grave. Alors ça c'est un petit montage de la régie, on les remercie.
Il arrive pas à se relever. Il faut l'aider à se relever. On s'en fout ou pas, Marianne?
Moi non plus, je m'en fous.
Et Bruno?
Moi non plus.
Bah Mehdi, dis-moi pourquoi.
C'est quand même assez incroyable. C'est pas la première fois que ça lui arrive. En un mandat, je pense qu'il en a, il en est déjà une dizaine de fois où il s'est voté. Donc ça peut arriver à tout le monde de se casser la gueule. Ça arrive à beaucoup de même à certains d'entre nous, oui. Mais sauf que nous, malheureusement, on ne dirige pas la première puissance militaire mondiale et on ne fait pas le gendarme du monde.
On ne se représente pas
à son âge à un deuxième mandat. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a aussi des problèmes, d'après ce que j'ai compris, de mémoire, ça fait un peu beaucoup, quoi. Enfin, je sais pas. Maintenant, on parle des États-Unis, quoi. Donc,
ça va peser sur la campagne électorale. Sûrement, au moment où Trump, lui, apparaît comme étant.
Mais t'imagines, entre la peste et le choléra, c'est pas facile de choisir pour les Américains.
Moi, je suis solidaire parce que on m'appelle dans l'intimité Nancy Reagan parce que je passe mon temps à tomber.
Ah bon?
En fait, ouais, c'est terrible. Donc, je suis très solidaire de Joe Biden sur le côté chute. Par contre, effectivement, c'est un peu inquiétant quand on voit ses pertes de mémoire plus que ses chutes. Moi, je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Mais c'est vrai qu'il a réussi à tomber de vélo aussi et tout.
Air Force One en descendant les escaliers.
Je suis solidaire parce que ça m'arrive tout le temps.
Bruno, toi, t'en penses quoi?
Mais ce qui est flippant, c'est qu'ils sont obligés de le représenter parce que je pense qu'il est un peu sénile en plus. Hein, il me fait penser à Bouteflika en fin de carrière. Le vrai problème, c'est que là, ce mec.
À sa décharge, il avait un fauteuil roulant.
Du coup, il tombait plus.
Il tombait pas.
Mais là, le problème, c'est qu'il est obligé de le représenter parce qu'ils se sont rendus compte que Kamala Harris pourrait pas être en face de. Mais de toute façon, les Américains, ils n'iraient pas de femmes comme chez nous, hein, malheureusement.
En face de Trump,
ils sont obligés de le mettre. Ils ont tellement peur de Trump, donc ils sont en train de le mettre, mais c'est contre-productif. À la fin, ça va finir que Trump, il va passer pour un mec jeune. Alors, je crois qu'ils ont 2-3 ans de différence. Hein. Ils ont quasiment le même âge.
C'est vrai. Il est à peine plus. Il a 77 ans, je crois, Donald Trump. Et d'ailleurs, l'équipe de campagne, tout de suite après la chute, disait mince, les images vont tourner en boucle. Et le problème, c'est pas la chute, c'est que derrière, il faut qu'on le relève et qu'il a un temps d'hésitation au moment où on le remet debout sur où est-ce que je vais, où est-ce que je me dirige. Et ça, ils disent, c'est désastreux pour nous. On continue, Louis.
Vous devriez lui mettre un exosquelette. Hein.
Allez, on continue dans les chutes. Plus de Français à Roland-Garros depuis la défaite hier soir de Arthur Rinderknecht, qui avait pourtant battu le mythe, la légende Richard Gasquet au premier tour. Alors, plus de Français à Roland-Garros. On s'en fout pas, Bruno.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Et Mehdi?
On s'en fout pas. On s'en fout pas parce que c'est tous les ans comme ça. Ça fait 30 depuis Yannick Noah.
40.
Tous les ans. Enfin, ils vont faire, c'est comme à l'Olympique de Marseille, ils vont faire l'anniversaire de la dernière victoire. Et ben maintenant, on va fêter le dernier passage en huitième de finale d'un Français à Roland Garros. Enfin, voilà.
Lui. Marianne.
Alors moi, j'ai entendu un ancien joueur que j'aimais beaucoup à l'époque, Henri Lecomte, qui disait qu'en fait, c'est pas très étonnant et que les Français sont en réalité à leur niveau. En fait, tout simplement, il y a rien d'étonnant en fait qu'il n'y ait plus aucun Français parce que les Français n'ont pas le niveau. Et lui, il pointe du doigt le fait que, alors même qu'on a un très grand tournoi de terre battue, les Français ne sont pas du tout préparés pour la terre battue et que c'est idiot. Donc en fait, ils pensent que c'est un problème de formation.
Alors Bruno. Juste avant Bruno, tiens, écoute justement Arthur, enfin le joueur qui a été sorti hier et la réaction du public aussi.
Après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes, bon bah t'es le dernier Français à gagner. Bon bah j'ai fait le max. J'en étais conscient. Bon, j'aurais aimé être le dernier Français en demi ou en quart ou en huitième, comme on l'a souvent été. Bon, c'était un deuxième tour malheureusement.
Je veux pas dire qu'on a l'habitude, mais ça reste inquiétant quand même. Après c'est dommage.
C'est un peu triste, c'est un peu dégoûté.
Si on a l'habitude, ça fait 30 ans, on a l'habitude. 40 ans, je pense que c'est plus une habitude, hein. C'est une tradition.
Arrêtez, Henri Lecomte,
il est finaliste, 88.
Non, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, on allait en deuxième semaine. Maintenant, aller au deuxième tour, déjà, c'est maintenant au deuxième jour.
Il y a Caroline Garcia aussi qui a déçu parce qu'elle est quand même
cinquième. Elle est cinquième mondiale, ouais.
Et qui s'est fait
Bruno, tu veux ajouter un mot?
Bah ouais, moi je vois.
Qui est un peu le Federer Berrichon.
Ah oui, ça va bien. Moi, une raquette de tennis, je suis très fort, là, ça c'est clair. Là, si vous voulez rigoler, venez me voir jouer.
Qui se met devant une table de ping-pong.
Oui, c'est ça, avec un rapide qui est une belle grosse balle jaune. T'es. Non, mais le sujet, c'est que tu vois, on vient de fêter les 30 ans de la victoire de Marseille, et tant mieux, et on n'est pas prêt d'en regagner une, alors que moi je viens du PSG, mais je pense pas qu'on la gagnera de sitôt. Et on fête les 40 ans de la victoire de Noah, et ce qui fait que là, on est en train de fêter des trucs de nostalgie, parce qu'on est incapable de gagner. Je veux dire, si le Real Madrid devait fêter chaque victoire en Ligue des Champions, mec, il sera en fait tous les jours.
Ça interroge quand même aujourd'hui sur ce que l'on sort d'abord au niveau de la jeunesse, des joueurs et surtout du mental.
Ouais.
Parce que j'entendais un spectateur étranger qui disait, mais en fait, les Français, ils arrivent sur le court de Roland-Garros, ils ont la trouille, donc ils viennent pas.
Mais parce qu'on leur met la pression aussi, les pauvres.
Bon, vraiment, c'est le sport de niveau.
C'est normal. C'est derrière toi et tout, tu vois.
Le public français est là pour soutenir pour soutenir son champion. Quand il arrive, on est tous derrière toi. Vas-y, ça doit encourager. Voilà, ça marche pas. Donc, c'est aussi le mental, en plus des académies de tennis.
Ouais.
Je sais qu'ils ont mis en place aujourd'hui la Fédération française de tennis des ateliers de coaching, ateliers de psychologues, pour arriver à gérer la pression. Enfin, c'est dingue.
Bah, le
il arrive sur le cours, c'est pipi dessus, quoi. Tu vois, c'est pipi dans le short.
Il y a Lisnard qu'on a monté une pas loin de chez toi, là, en PACA, et il disait, enfin, la plupart des futurs pros qu'il a, c'est que d'étrangers, dont un russe, là, qui est en train de tourner plein gaz. Et il disait, il y avait les Français. Alors, je crois qu'il en a un. Le petit jeune, là, qui est pas mal, là, le.
Arthur Fils.
Lui, je pense, ça peut être la suite, mais bon, c'est pareil. À chaque fois, on en dit ça, puis l'année d'après, boum, ça s'explose. Ouais.
Oui, et puis, il a des super temps de passage, mais finalement, Alcaraz a le même âge, il est déjà numéro un mondial.
Ton idole Gasquet aussi, des super temps de passage.
Oui, non, mais, touchez pas à Richard, d'accord. Richard, c'est la légende. Mais, surtout, pourquoi on a aucun Français bon sur terre battue, alors qu'on a le plus beau tournoi de
C'est ce que
faudra se poser la question.
Et pourtant,
au CNE, il n'y a que des green sets.
Mais par exemple, dans le sud, tu joues sur terre battue, dans bon nombre de cours. Voilà, il y a peut-être le tennis à revoir en profondeur, le faire grandir aussi beaucoup dans les quartiers aujourd'hui.
Oui, pas
de raison qu'on sorte de bons footballeurs, on doit pouvoir sortir de bons joueurs de tennis.
On a énormément de licenciés en plus, on est une grosse fédération.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Bruno Poncet, avec Mehdi Ghezard, avec Marianne Soubré, l'affaire Mohamed Awas, peut-on protéger une femme malgré elle? Elle avait hâte qu'il revienne à la maison, son épouse Iman Awas. Hier, on a vu la vidéo de la manière dont il l'attrape au supermarché, il la fait tomber, il la gifle, ensuite il la traîne. Ça interroge quand même. Elle n'a pas porté plainte. Elle voulait qu'il revienne retrouver les enfants et leur intimité. Est-ce qu'on peut protéger une femme malgré elle? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.